sortie de boîte, Cédric Adrover.
Notre invité ce soir est un enfant de Delémont. Il a 4 enfants, 4 petits-enfants. Il met tout de suite les points sur les i en préparant l'émission. C'est tout ce qu'on saura sur sa vie privée. Oui, parce qu'il n'est pas du genre à s'étaler. Mais il parle volontiers de son entreprise, Turc Duotech à Delémont. Il évoque avec plaisir ses projets. Et s'il y a un élément qu'il souhaite particulièrement mettre en valeur, ce sont ses collaborateurs. Lui, il a régulièrement ce qu'il appelle les fourmis, ce picotement que de nombreux entrepreneurs connaissent, qui s'associe un peu au goût du risque, avec cette envie, je le cite, de réaliser quelque chose que les autres n'ont pas encore réalisé avant. En visitant l'entreprise, on sent qu'il est passionné par la technologie, par les défis de la production, par l'automatisation, mais avant tout par les humains. Dans les locaux, il reste plein de place pour plein de rêves, dit-il. On va parler de tout cela ensemble jusqu'à 19h. Bonsoir Jean-Claude Jaffner.
Bonsoir.
Alors, c'est pas ce que vous préférez, mais on va, avant de parler de l'entreprise, parler quand même un tout petit peu de vous, de votre parcours particulièrement. Vous avez une formation d'ingénieur. Cet intérêt pour la technique, on le retrouve dans votre biberon ?
Pas tout à fait dans le biberon, mais c'est vrai que depuis l'âge de 13 ans, 14 ans, j'avais le rêve de conduire une entreprise et la porte que j'avais cru reconnaître à ce moment-là, c'était la technique, maîtriser le produit, maîtriser ce qu'on fait pour pouvoir arriver à conduire à bien un projet.
Ah oui, donc adolescent déjà, cette envie d'entreprendre, elle était là.
Absolument, oui.
Si vous deviez sortir une expérience professionnelle particulièrement enrichissante avant Turc Duotech, vous diriez quoi ?
J'ai eu la chance, en finissant mes études, de participer au projet Swatch, donc la Swatch Home, la Swatch, la Lady Swatch. Pour moi, c'était une expérience absolument unique, puisque la Swatch définissait la montre dans des chemins totalement différents de ceux que l'on connaît dans l'horlogerie. Et ce défi-là ne pouvait être que passionnant. De plus, à l'époque, on avait un directeur général qui s'appelait Monsieur Tomquet, et lui était un même passionné, donc il venait s'asseoir à notre table, il regardait comment évoluaient les choses, il nous provoquait, c'était vraiment fascinant.
C'est vrai qu'on l'oublie aujourd'hui, mais la Swatch était un défi particulièrement fou à l'époque.
Oui, elle était particulièrement fou parce que il nous fallait réaliser en Suisse une montre qui avait un prix de revient dérisoire, qui avait la précision, la qualité d'une montre suisse et qui était novatrice, donc quelque chose qui réveillerait le marché.
Aujourd'hui, c'est encore une source d'inspiration pour vous, cette expérience-là ?
Alors, certainement que ça reste une source d'inspiration, puisque la seule chose qui m'intéresse, c'est les défis, repousser les limites, et puis essayer d'aller là où personne d'autre ne va actuellement.
Un défi et un beau s'est présenté à vous en 1985. Vous revenez dans le Jura pour diriger la société turque. Comment ça s'est fait ?
C'est en fait mon ancien employeur. En quittant Swatch, j'ai été dans une société jurassienne. C'était pas la situation génial que je pouvais m'imaginer. Et un jour, mon employeur me dit qu'il avait rencontré le développement économique et qu'il cherchait des ingénieurs. À l'époque, l'industrie horlogère était en crise. Et mon employeur me dit, certainement tu connais des gens, renseigne-toi au niveau du canton et propose des gens. C'est comme ça que la proposition, après explication du développement économique, était pour moi évidente, que je connaissais bien la personne qui pourrait postuler.
Vous avez proposé une personne, et vous étiez d'ailleurs au début du projet à la tête d'une grande équipe de une personne.
Effectivement, pendant 3 mois, j'étais mon chef, je subissais mon chef, tout était sous une personne, mais très vite l'équipe s'est élargie, d'abord à 5 personnes. Peu à peu, on a grandi en élargissant notre activité pour arriver aujourd'hui à plus de 260 personnes.
Donc une évolution, on va y revenir, impressionnante. Juste un mot peut-être sur la région, en quoi c'est important pour vous d'être présent dans cette région ?
Je pense que le canton du Jura a des choses à faire valoir, des compétences, un engagement professionnel des gens, une responsabilité aussi des gens vis-à-vis de leur emploi. C'est quelque chose que j'apprécie énormément. Et du moment qu'une entreprise étrangère vient s'implanter dans le Jura et nous laisse beaucoup d'autonomie comme on a dans le cadre de Turc à Delémont, ça ne peut être que fascinant. Ça permet de développer des nouveaux métiers, ça permet d'offrir des opportunités à des personnes et ça permet finalement à notre région aussi de faire valoir de nouvelles images.
Dans cette région, votre entreprise est spécialisée dans la production de modules électroniques. Pour les profanes, ça consiste en quoi ?
Alors, on a deux axes principaux. Le premier, c'est des détecteurs de proximité. Un détecteur de proximité, c'est en fait l'œil d'un ordinateur sur une machine automatique. L'ordinateur donne un ordre, le moteur de la machine déplace la pièce et le détecteur découvre ou voit apparaître cette pièce. À un moment donné, quand il a vu cette pièce, il dit à l'ordinateur « stop », le moteur et donne l'ordre suivant.
Ça, c'est pour le premier axe. Et le second ?
C'est pour le premier axe. Le second, c'est une qualité qu'on voulait développer pour augmenter aussi notre autonomie à Delémont. C'est d'offrir en sous-traitance les compétences technologiques qu'on a. Et par ces compétences-là, on a finalement la possibilité de sortir du marché de l'automation pour entrer dans des marchés parallèles qui nous permettent d'être moins sous la pression de la concurrence.
Ce qui vous a longtemps distingué de cette concurrence, un avantage concurrentiel que vous avez eu, c'est une technique qu'on appelle le surmoulage électronique. De quoi s'agit-il ?
C'est tout simplement, on a recopié les Italiens. Quand ils font des macaronis, ils prennent un trou, ils mettent de la pâte autour. Nous, on a fait la même chose. On prend une électronique et on injecte le boîtier autour de cette électronique. Ça paraît très, très simple. Au début, on a transpiré parce qu'on a largement sous-estimé la difficulté des choses. Mais finalement, avec beaucoup de ténacité, avec beaucoup de courage, avec beaucoup d'engagement de la part de mes collaborateurs aussi, on a fini par réaliser ce surmoulage et aujourd'hui on a pratiquement 60 à 70% de notre production qui utilise cette technologie.
Alors qu'au tout début il y avait un pourcentage de déchets impressionnant, la persévérance c'est une qualité quand on est entrepreneur?
Je pense que c'est une condition de survie si on a peur de l'échec, on abandonne très rapidement. Je pense que c'est pas une force si on abandonne et abandonner tout simplement par définition comme dans le sport, ça n'existe pas.
Mais parfois, il faut quand même savoir quand un projet n'est pas porteur, se dire bon, on va se concentrer sur autre chose, non ?
Vouloir être persévérant ne signifie pas être stupide.
C'est une différence qu'il faut faire. Ce qui distingue aussi vos produits, c'est la miniaturisation, une demande qui est de plus en plus fréquente sur les marchés, toujours plus petit. Est-ce qu'il y a une limite ?
Non, je pense que le génie humain, il a pas de limite. Il y a des limites physiques qui se donnent, c'est clair. Mais lorsqu'on veut aller toujours plus loin, les limites se repoussent et se repousseront toujours. D'ailleurs, c'est dans toutes les crises que ces limites évoluent le mieux. Je crois qu'on a tous encore en tête des souvenirs douloureux. Les radars se sont inventés pendant la Deuxième Guerre mondiale et d'autres inventions arrivent aussi lorsque la situation est difficile. Ici, c'est la même chose. La miniaturisation évoluera toujours en fonction des crises et des besoins qui doivent être réglés.
On va se rendre dans votre entreprise à Delémont. C'est Jean-Michel Probst qui est venu vous rendre visite. On le retrouve à la chaîne de production avec comme guide Christophe Schild. Entre autres casquettes, il a celle de responsable qualité.
Sortie de boîte.
Donc, je vous propose qu'on parte du début de la chaîne de production. Tout arrive depuis la réception et le contrôle d'entrée.
Merci. Christophe Schild, vous êtes notamment responsable qualité ici chez Turc Duotech à Delémont. Je pense que c'est une grande responsabilité, un grand défi.
Oui, absolument. Pour nous, c'est le défi de l'avenir parce que en fait, cette industrie va nous permettre de développer nos différents objectifs et stratégies qu'on veut mettre en place pour le futur. Et puis, pour nous, c'est un élément effectivement assez déterminant dans la progression de l'entreprise. Donc là, on a vu la personne qui était en train d'effectuer des contrôles, parce qu'effectivement, c'est des processus à un très haut niveau de qualité, donc sur lequel on fait un suivi qualité, si je vais parler un peu de la qualité, hein, c'est mon domaine, un suivi qualité assez important, parce que ce qu'on cherche vraiment, c'est d'avoir le zéro défaut.
Tolérance zéro.
Tolérance zéro, oui, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même une clé de notre business. C'est vraiment d'avoir une qualité irréprochable. Il y a pas seulement, je dirais, les coûts qui rentrent en ligne de compte. Je pense qu'un niveau de qualité élevé est important pour nous. Ici, c'est donc l'atelier injection. C'est un atelier où en ce moment, on a vraiment ce qu'on appelle, nous, on est en train de développer une compétence au sein du groupe turc. On essaye d'y intégrer plusieurs technologies d'injection. Donc, il y en a déjà certaines, comme vous pouvez le voir ici, qu'on maîtrise.
L'injection, quand même, pour dire deux mots, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qu'on fait exactement?
Alors l'injection, en fait, ce qu'on fait, c'est que, vous avez vu tout à l'heure, on fabriquait des cartes électroniques. Et en fait, qu'est-ce qu'on vient mettre? Du plastique autour de ces cartes électroniques pour faire
pour
très simple.
Protéger.
Voilà, pour les protéger. Simplement, vous comprenez, le plastique, il arrive chaud. Et puis sur une carte électronique qui est quand même relativement, on va dire, fragile. Donc effectivement, il y a tout un savoir-faire là autour que... qu'on ne souhaite, comme je l'ai dit avant, qu'on ne souhaite pas forcément divulguer. Maintenant, c'est un atelier aussi où on a introduit des nouvelles technologies. Par exemple, la responsable, maintenant, elle a un iPad qui lui permet d'avoir un contrôle sur quasiment toute sa production. Donc, ce qu'on souhaite faire dans cet atelier, c'est aller beaucoup plus loin. C'est qu'en fait, aussi, les personnes soient informées, si vous voulez, quelque part, de quand ça va ou quand ça ne va pas. Et ça, c'est ce qu'on cherche maintenant à développer dans cet atelier. On cherche vraiment à faire un atelier modèle. Si on cherche à faire ça, c'est pas juste le faire ici seulement, c'est aussi pouvoir le faire après dans tout le reste d'entreprise, en définitive. Et aujourd'hui, c'est vrai que quand la responsable maintenant a eu son iPad, elle était ravie parce que pour elle, c'est un vrai plus et un vrai bond en avant pour elle et pour toute l'équipe qui travaille ici.
Sortie de boîte.
De retour dans notre studio de Delémont avec Jean-Claude Schaffner, directeur de Turk Duotech. On a entendu le reportage de Jean-Michel Probst, on parle de nouvelles technologies. C'est vrai qu'en visitant chez vous, on voit que la nouvelle technologie est bien là, notamment l'automatisation dès le stock. On voit des éléments qui sont surprenants. Comment ça se présente? Comment on cherche à automatiser?
Bon, je pense que l'industrie aujourd'hui, ou si on veut être présent sur les marchés aujourd'hui, il y a une condition, c'est de pouvoir développer des partenariats depuis son fournisseur jusqu'à son client. Il y a des mots qui apparaissent toujours plus, l'industrie 4.0, c'est quelque part un tout petit peu comme la communication, on peut tout mettre dessous, c'est pas nécessairement facile à réaliser. L'industrie 4.0 pour nous, c'est créer un partenariat, une digitalisation des informations en partenariat et puis en termes d'entreprise, c'est de maîtriser ces processus, c'est-à-dire de pouvoir avoir des compétences à disposition de production de grande série, mais avec la force de la spécification à la pièce.
Ça veut dire qu'on peut tout sourcer, tout remonter, on sait tous les composants d'une pièce, d'un produit fini, c'est ça l'idée derrière ?
C'est un des aspects, la traçabilité, suivant les marchés dans lesquels vous êtes, c'est une condition impérative de pouvoir faire une traçabilité. Et là, on est capable, avec ces éléments qu'on a déjà mis en place, d'assurer sur tous nos composants une traçabilité complète.
Cette industrie 4.0, on y associe aussi parfois la robotisation. Est-ce qu'on se dirige vers un marché du travail où il y a de plus en plus de robots et de moins en moins d'humains, selon vous ?
Alors, c'est toujours les craintes quand on veut voir les choses en noir et en blanc. Chez nous, ce n'est pas du tout le cas. On pense que la Suisse a des choses à faire valoir très fortement. Et non, ce n'est pas moins de places de travail par rapport à la robotisation. C'est intégrer l'être humain en augmentant ses compétences dans le cadre de l'automation.
Concrètement, comment on peut faire pour accompagner les êtres humains, justement, dans ce cadre-là ?
Alors, toutes les méthodes sont les bonnes. Nous, on en a choisi une. On a développé un campus, on est en train de mettre en place un campus dans lequel tous nos métiers seront appris sur place, seront développés. La sensibilité des gens, le professionnalisme des gens sera développé dans ce campus et aussi nous permettra de sensibiliser des ingénieurs aux problèmes de production. Lorsqu'ils construisent, ils vont être beaucoup plus sensibles aux difficultés. Et aussi, ça a surtout un point fondamentalement important, c'est que si les métiers évoluent, si les besoins de l'industrie évoluent, ça nous permet de tenir les gens à la page, de les former, de leur permettre de se développer dans l'entreprise, et puis d'obtenir par là des conditions de travail qui sont extrêmement intéressantes et de ne pas devoir craindre l'automation. J'aimerais dire que une entreprise, c'est une machine à faire de l'argent, mais le moteur fondamental de cette machine reste l'être humain. Et si on n'arrive pas avec cette technique, avec les formations qu'on propose, à respecter cet être humain, à lui donner une chance de nous suivre dans ce développement, l'entreprise à terme n'aura pas beaucoup de chance.
Il y a une citation du fondateur de Werner Türk dans un film promotionnel de l'entreprise qu'on va remettre d'ailleurs sur notre site internet. Je vous la lis. La richesse d'une entreprise, ce ne sont pas ses locaux, ce ne sont pas ses machines, ce sont ses collaborateurs. Donc ça, on l'entend aussi dans votre discours. Et le leader, du coup, quel est son rôle là-dedans ?
Oh, c'est un rôle des fois difficile, c'est un rôle où théoriquement on devrait toujours insuffler la confiance aux gens. On reste toutefois des êtres humains. Des fois le doute nous envahit, des fois le stress nous déborde. Mais c'est vrai qu'avec des collaborateurs chez qui on a pu développer la confiance et qui respectent ce partenariat, ça devient un plaisir. Ça devient un plaisir avec ses doutes, ses crises, mais c'est un plaisir parce que, in fine, tout le monde peut se réjouir du succès qu'on a eu.
En préparant l'émission, vous m'avez dit que c'est important de montrer ses émotions. Ça apporte quoi ?
Je pense que les émotions sont la vérité des gens. Et lorsqu'on doute, les gens doivent aussi pouvoir le remarquer. Cette confiance permet d'éviter les conflits, permet de montrer qui on est finalement. Et je pense que quelque part, une entreprise, c'est comme un couple. Soit on sait se respecter, soit on sait découvrir les faiblesses de l'autre sans appuyer outre mesure dessus, soit on a la volonté de travailler ensemble. Et à ce moment-là, on arrive à quelque chose de magnifique. Et ça, c'est, je pense, une des richesses que toutes les entreprises devraient respecter.
Si on prend un cas très concret, la crise de l'euro, elle vous a frappé de plein fouet, votre marché est international. L'inquiétude a dû gagner les troupes à ce moment-là. Comment on gère ce genre de crise ?
C'était un moment très intéressant parce qu'en même temps que l'euro nous a joué ses tours, on avait démarré l'agrandissement de l'entreprise, donc un risque énorme qui s'ajoutait dessus. C'était quand même 15% de marge en moins, donc c'est pas négligeable dans une entreprise. Et là, finalement, la réaction du fondateur du groupe était de me dire, après chaque crise, il y a de nouveau le soleil qui apparaît. T'auras les outils pour gagner, continue cet investissement, continue cette chose. Alors, c'est clair qu'avec un propos comme celui-là, on ne peut qu'être rassurant vis-à-vis des collaborateurs, et même si au fond de moi, le doute m'envahissait souvent, j'ai pu faire rayonner cette sérénité, ce qui a donné confiance à tout le monde. Et aujourd'hui, c'est pas avec peu de fierté qu'on dit qu'on a une année record avec un taux d'accroissement qui frise les 30%, ce qui est quand même assez remarquable.
On parle de Lémon, on a beaucoup parlé de Lémon. Vous travaillez de nombreux endroits dans le monde, en Chine, aux USA, au Mexique. Un mot peut-être sur ce côté international, très rapidement. Quand vous vous implantez ailleurs, c'est avec une stratégie assez précise, une stratégie qu'on pourrait décrire de local. Ça vous convient ? Vous pouvez nous expliquer quelle est la stratégie, par exemple au Mexique ?
Alors, tout à fait. L'idée n'est pas de se déplacer dans ces pays pour jouir d'une main-d'œuvre meilleur marché, mais c'est de produire là où le marché se développe et de pouvoir offrir les spécificités de ce marché en étant sur place pour répondre à ses besoins. Et par ce biais-là, on a eu l'année dernière une expérience magnifique où nos collaborateurs à Delémont ont formé nos collègues mexicains qui allaient recevoir des installations même plus modernes encore que les nôtres. Les nôtres avaient une année, les leurs venaient de sortir. Plus modernes que les nôtres, et c'est avec beaucoup de passion que ce genre de choses se passe, puisqu'on ne crée pas une délocalisation, mais on cherche à s'implanter sur les marchés.
Donc au final, une économie et aussi une valeur écologique, parce que les pièces n'ont pas à voyager.
Exactement.
Un mot peut-être juste rapidement sur les différences culturelles. Quand on est présent partout dans le monde, on doit s'adapter vraiment à chaque pays. C'est quoi le plus gros défi ?
Le plus gros défi, je pense, c'est de respecter ces différences culturelles. Si on prend la Chine, il y a beaucoup de principes qu'on a beaucoup de peine à comprendre en tant qu'Européens. Si on n'est pas capable de les intégrer, je pense qu'on se ferme beaucoup de portes. La même chose au niveau des États-Unis, la même chose au niveau du Mexique. Le défi, c'est vraiment, et ça reste toujours, le respect de l'être humain et de sa vision des choses.
Bientôt 18h53, c'est l'heure de notre chronique horlogère présentée par Marie-Lise Saillard, quand l'innovation au poignet se met au service des handicapés.
Pile à l'heure.
Vous connaissez certainement le personnage de Marie dans La Petite Maison dans la Prairie. Un des épisodes les plus dramatiques de la série, c'est quand Marie devient subitement aveugle.
How long till she's better?
Her eyes won't get better. Mr. Ingalls, Mary is going blind.
Mettez-vous un instant à la place de Marie. Vous qui aimez votre montre, comment allez-vous faire pour lire l'heure? Aujourd'hui, Marie aurait plusieurs solutions. On peut se servir des autres sens que la vue. Si on veut se servir du toucher. Avec le toucher, donc, il y a des montres en braille. On peut ouvrir le cadran et passer ses doigts sur les aiguilles et les repères tactiles. Si on veut se servir de l'ouïe.
Je me casse les tympans.
Quand on se sert de ses oreilles, donc, il y a des montres parlantes. On appuie sur un bouton généralement situé sur le côté du boîtier et une voix nous renseigne.
Il est maintenant 13h59.
Et si on veut se servir de ces deux sens, l'ouïe et le toucher, il y a désormais Acoustica. L'Union Centrale Suisse pour le Bien des Aveugles vient de lancer ce produit, élaboré avec des entreprises horlogères romandes. Le but, c'est d'améliorer la qualité de vie des personnes qui ne voient pas du tout, ou plus très bien, et ou n'entendent pas bien, ou pas du tout. Ne pensez pas que ça a été simple de parvenir à ce résultat. Il a fallu intégrer toute l'électronique nécessaire, c'est-à-dire batterie, vibreur, processeur de synthèse vocale et mouvement à quartz. Mais pas besoin d'avoir fait de longues études pour se servir de cette montre-bracelet. L'utilisation est simple et intuitive.
Eh bien, en fait, c'est très simple.
On peut adapter le volume, On peut aussi adapter le débit de l'horloge parlante. Pour annoncer l'heure et la date, il y a des voix masculines et féminines en quatre langues. Français, allemand.
Es ist 20 Minuten nach 6.
Italien.
Et 5:35.
Et anglais.
It is 5:03.
Alors c'est vrai, ce produit s'adresse notamment à des malvoyants et des non-voyants, mais ce n'est pas une raison pour qu'il soit moche. Ses concepteurs ont tenu à soigner le design. Même s'ils ne la voient pas, les utilisateurs de cette montre seront sûrement contents de savoir qu'ils ont un bel objet au poignet.
Pile à l'heure.
Une chronique que vous retrouvez en intégralité sur notre site internet, ainsi que beaucoup d'informations sur l'entreprise à l'honneur aujourd'hui dans Sortie de boîte, Turc Duotech à Delémont, des photos, une vidéo et l'entretien intégral que nous avons eu avec vous, Jean-Claude Schaffner, directeur de la société. Et pour terminer, en introduction de cette émission, je vous ai cité, quand on a visité l'usine, vous avez dit « il y a plein d'espaces vides pour plein de rêves ». Ces rêves, il y a quoi dedans ?
Dans ces rêves, il y a... par l'activité Turc Duotech, un engagement qu'on veut réaliser. Je m'excuse, je suis un peu bafouilleux là. Les rêves, c'est pas facile
c'est
à réaliser.
Rêve, ça, ouais.
Non, on va se développer dans l'industrie médicale. Avec le surmoulage électronique, on a des compétences à faire valoir. On intéresse les plus grands groupes mondiaux actuellement et c'est vraiment le rêve qui s'ouvre devant nous. J'aimerais presque dire nos limites.
Le médical aussi, l'aéronautique, hein, vous m'avez dit.
Exactement,
peut-être.
Oui.
Vous cherchez pas la facilité en fait.
Ah, la vie est trop courte pour s'ennuyer.
Ce sera le mot de la fin. Merci en tout cas d'avoir été avec nous ce soir. On vous souhaite une très belle soirée.
Merci et j'aimerais juste spécifier ici que tout le succès qu'on a ici à Delémont, il est réalisé grâce à l'engagement des collaborateurs et je les salue aussi spécialement.
Voilà, le message est passé. Jeudi prochain, Sortie de boîte revient. Alizé Lichti vous emmènera chez Multiple Design à La Chaux-de-Fonds, une entreprise spécialisée dans le design industriel qui a notamment été primée pour son travail sur une très célèbre machine à café. Très belle soirée, à la semaine prochaine.
Sortie de boîte.